On va aller rejoindre notre chroniqueur judiciaire. Elle est chroniqueur judiciaire au journal Le Soleil. Et puis, je dois vous dire, vous êtes dans les secrets. On devrait pas se parler ce matin. On dit, ah, c'est plus tranquille dans le monde judiciaire. Puis finalement, boum, il arrive une histoire hier qui, moi, m'intéresse. Et ça va m'amener peut-être à des réflexions sur autre chose. Alors, on va aller la rejoindre tout de suite. Chroniqueur judiciaire au Soleil, Isabelle Mathieu. Bon matin, Isabelle.
Oui, bon matin tout le monde.
Hey, Isabelle, premièrement, tu veux me parler d'une histoire qui est arrivée dans le coin de Montmagny et ses environs-là.
Lillet, oui.
Ce que tu nous racontes, est-ce que ça se passait au palais de justice de Montmagny?
Oui, exactement.
OK, est-ce que tu avais à te déplacer là-bas ou, là, à cause de la pandémie, ça vous ouvre à avoir accès à plus grand de territoire?
Ben moi j'allais déjà à Montmagny parce qu'on en a peut-être même déjà parlé ensemble là. Oui. Montmagny, capitale du crime, là il y en a quand même beaucoup de faits divers qui se passent dans ce coin-là. Et là oui, on nous a donné accès. Moi j'étais pas sur place, j'étais en virtuel. On nous a donné des codes d'accès. Okay. Pour continuer à faire notre travail là, dans tous les palais de justice là qu'on couvre là. Et je te dirais qu'hier ça a bien fait justement que je sois à distance parce qu'il y avait beaucoup de membres de la famille qui voulaient assister à la cause dont on va se parler dans quelques secondes. Et donc, c'était compliqué, là, caser tout le monde. Puis, même si moi, je trouve que j'ai un travail à faire, je suis là pour informer le public, mais la famille est prioritaire, là. Fait que on est toujours un peu... tout le monde est un peu déchiré, là. Ouais, faut trouver un petit coin pour les journalistes, mais on veut pas enlever des places pour la famille, là. Fait que c'est ça. Donc, ça faisait très bien que je sois à distance.
Virtuel. Donc, donc l'histoire, tu dis, pourquoi il y a beaucoup de membres de la famille, il y a beaucoup de monde qui veulent assister à ça. Donc, c'est un jeune homme qui est accusé de conduite dangereuse, ayant causé la mort, c'est ça?
Donc, conduite dangereuse et conduite de capacité affaiblie. Ayant causé la mort. Okay. C'est une histoire que moi, je connaissais pas du tout à l'avance, celle de Émeric Beaulieu. Ça, c'est le jeune accusé. Parce que c'est un fait divers qui s'est passé loin. Saint-Cyril de l'Essard. On va jamais là. Tu sais, tu prends la 20, tu sors à Lillet, puis là, tu t'en vas dans les terres, puis tu continues, puis tu continues, puis tu continues. Là, tu sais, je veux dire, moi, je connais Saint-Jean-Port-Joli là, très bien, mais non, Saint-Cyril de l'Essard, bref, ça a pas été très très couvert par les médias et donc mais c'est un grave accident là. Il y a un jeune homme qui est mort pas sur le coup, un jeune homme qui s'appelle Kevin Côté et donc qui est décédé et je vais te raconter l'histoire comme il faut. Alors on est le 7 décembre 2019, c'est quand même tout récent. Kevin et Émeric, c'est des amis d'enfance qui se connaissent très bien, qui vivent à Québec. Kevin a 19, Émeric 20 à ce moment-là.
C'est pas des gars de Saint-Cyril là.
Non, pas du tout. Okay. Ils s'en vont là parce qu'ils ont des amis qui sont dans un chalet. Okay. Au lac des Plaines. Okay. Moi, je connais pas le lac des Plaines, mais ça a l'air d'être un beau petit coin dans cette région-là.
Et on peut présumer qu'ils connaissent pas le secteur eux non plus.
Ça, j'avoue que j'ai pas cette information-là.
Non, je comprends, mais c'est des amis qui ont loué un chalet, donc ok. Non, mais j'essaie de figurer. C'est pas des locals qui connaissent les routes, les buttes, les côtes, les tours, les croches. On peut penser que c'était pas familier nécessairement.
Possible. Okay. Et là, donc, ils vont. On est le soir du 6 décembre. Ils se rendent là. Ils font la fête avec d'autres jeunes. Tout est beau. Tout le monde dort sur place au chalet. Mais le lendemain matin, c'était convenu comme ça. Émeric avait offert à son ami Kevin de le ramener à Québec de bonne heure parce que Kevin travaillait dans une épicerie, je pense. Et donc ils partent tôt. Et là, ils traversent le village de Saint-Cyril de l'Essard, mais beaucoup, beaucoup trop vite. Parce que après l'accident, quand ils ont analysé tous les modules et tout ça, on a vu que Émeric, qui est le conducteur, roulait à 113 km/h dans le village, dans une zone de 50. Okay. Et là, sur le sommet d'une butte, comme tu le pressentais, l'auto a un peu soulevé de terre, elle a quitté la chaussée, et là, Émeric a perdu le contrôle de son véhicule, qui est allé percuter vraiment violemment une maison. Les maisons sont proches, là, de la route principale. Et c'est malheureusement Kevin qui était assis derrière lui, comme passager, donc derrière le conducteur, qui a pris à peu près tout l'impact. Les deux autres, le conducteur, Émeric, a presque pas été blessé. Il y avait un autre jeune homme aussi en avant qui a pas été blessé. Et là, tout le monde a été conduit à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on Kevin était dans un état très, très grave. Là, il était maintenu en vie artificiellement quelques heures. Et ses parents ont dû prendre la décision, là, avec les conseils des médecins, d'arrêter les appareils qu'il maintenait en vie. J'aime pas ça, l'expression débrancher. Je sais pas, c'est juste mon petit malaise. En tout cas,
c'est ce que moi, ce que je fais, moi, je me dis tout le temps une affaire, puis je voulais, probablement que t'as pas la réponse, mais je me dis tout le temps, OK, quand ils prennent cette décision-là, souvent juste avant, puis les médecins insistent, ils ont probablement peut-être sauvé la vie à d'autres mondes en faisant des dons d'organes.
Possible. Ça, fois, non plus, ça n'a pas été malheureusement dit. Et là, il y a des prises de sang qui sont faites sur le conducteur, Émeric, et on va avoir les résultats assez rapidement. Il y avait encore de l'alcool dans son sang. On était quelques heures après le party, il avait dormi. Possiblement que lui se sentait, je sais pas s'il se sentait frais comme une rose, mais en tout cas, il avait l'impression qu'il était correct parce qu'il avait dormi, mais non, il était encore à .11, presque .12 d'alcool dans le sang. Fait que ça avait été une bonne consommation d'alcool la veille sûrement. Et donc là, il est arrêté. Et rapidement, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable déjà l'été dernier. Et là, hier, c'était les représentations sur la peine. C'est comme l'étape ultime, là. Et moi, ce que j'ai trouvé, ce qui était particulier, puis c'est pour ça que je t'ai texté en catastrophe, là, hier, parce que je pensais jamais qu'une histoire aussi triste, il y aurait autant de beau puis de lumineux là-dedans, à cause beaucoup des parents de Kevin.
Okay.
Eux autres, c'est des parents séparés, Caroline Julie Bastille et Jean-François Côté. Ils étaient là tous les deux. On a surtout entendu la maman. Le père avait déposé une lettre, mais il était là. Je veux pas qu'on l'oublie. Mais eux, ça fait depuis le début là qu'ils sont dans le pardon. Dès les premières semaines, les premiers jours là, ils l'ont dit. Ils la connaissent, la famille d'Émeric, ils connaissent ce petit gars-là. Puis ils sont déjà dans le pardon. Ils l'avaient déjà rencontré. Et là, ils voulaient lui redire. Au juge. Bon, ils ont dit évidemment que c'était dur pour eux, puis qu'ils s'ennuient de leur garçon à tous les jours, puis ils s'inquiètent pour le jeune frère qui a 16 ans, puis qui en parle pas trop. Mais ils ont surtout voulu dire à Émeric que c'était qu'il lui pardonnait et qu'il voulait laisser aller en paix Kevin avec ce pardon-là. Mais il voulait aussi que Émeric continue d'être une bonne personne. Ils lui ont pas dit deviens une bonne personne. Ils ont dit on veut que tu continues d'être une bonne personne, que tu te serves de cet événement-là qui peut arriver à plusieurs personnes. Hein. Ils ont pas dit c'est toi là le seul unique méchant. Donc, un événement qui peut servir à plusieurs personnes pour que ça change peut-être un peu la société. Donc, ça, c'était un moment tellement émouvant parce que, tu sais, moi, j'en ai vu quelques-uns, là, malheureusement. On en a plein d'exemples là, de cas de jeunes ou même et d'adultes qui sont morts à cause de l'ivresse au volant. Et
la mère, ce que tu nous racontes, elle le fait devant le juge. Là.
Exactement, devant le juge.
Est-ce qu'elle pleure?
Elle se retourne, de temps en temps, elle se retourne vers Émeric. Et elle est assez solide, elle a de l'émotion évidemment, là, mais tu sais, tu vois qu'elle a quand même réfléchi à tout ça, elle a écrit un texte et elle a dans ses mains le cadre, la photo de Kevin, évidemment, une photo assez grosse pour que tout le monde le voit. Vous l'avez peut-être vu dans le soleil aussi, là, un beau jeune homme rouquin. Et c'est ça, donc là, c'est un moment très, très, très émouvant. Et après ça, c'est l'accusé qui veut s'adresser aussi au tribunal. Là, il s'avance, on voit que c'est pas un gars de radio là, hein? Okay. c'est pas son trip de parler, c'est un jeune homme qui veut devenir ingénieur, qui a déjà avancé dans ses études, fait des stages, c'est important pour lui. Là, il est très nerveux, il est très ému et là il reconnaît toute la souffrance qu'il a causée. Il est tellement... il raconte comment il voulait, dès le départ, aller voir la famille de son ami, de Kevin. S'est attendu un peu, il leur a écrit une lettre. Finalement, quand il les a rencontrés, il nous raconte comment ils l'ont juste accueilli, ils l'ont serré dans ses bras, puis ils ont enlevé un poids de ses épaules, mais on voit que le poids est encore là, parce qu'il dit « Vous m'avez pardonné, moi, je peux pas, puis je pourrai jamais me pardonner. » Bon, jamais, c'est peut-être long, une vie, là, on va voir comment on lui souhaite là, que de bien cheminer. Donc c'était très, très beau de voir ça. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé comment les parents de Émeric ont réagi. Le jour même de l'accident, Émeric raconte son père, il a dit « Tu vas te relever cette épreuve-là, mon gars, puis tu vas devenir la meilleure version de toi-même que tu peux offrir à la société. » Et Émeric dit « Moi, depuis ce temps-là, c'est ça que je garde en tête, puis c'est ça que je veux faire. » Puis je vais, oui, il faut que je sois puni, mais je vais me servir de cette punition puis de l'accident pour en pensant à Kevin puis pour vraiment guider mes actions. Fait que tu vois, je te le raconte puis j'ai
c'est
encore
triste,
un peu de frisson.
Je sais, Isa, je t'écoute puis j'en reviens pas. Mais sais-tu, j'ai un problème par exemple. Fait que là on fait ça et est-ce qu'on fait ça dans le but d'atténuer la sentence
Pas
du tout.
Ben non, parce qu'elle est déjà, ben, pas du tout. Il y a eu de la réflexion, évidemment, en lien avec ce support-là familial, le fait qu'il y ait l'aspect du pardon, mais c'est pas ça parce qu'elle est déjà préparée, entre guillemets, la sentence. Les avocats, le procureur de la couronne à Montmagny, qui s'appelle François Doyon-Gascon, et l'avocat de Émeric, c'est Maxime Roy, un nom qu'on entend, là, que tu connais probablement déjà, ils s'en sont parlé, là, pendant, ça fait des semaines, là, qu'ils discutent, qu'ils ont analysé les centaines de décisions de conduite capacité affaiblie causant la mort, et ils ont fait une suggestion au juge. Donc, tout est déjà, entre guillemets, ficelé. Il reste juste à le présenter. Et c'est normal que les victimes s'expriment et que l'accusé s'exprime. Okay. C'est vraiment toujours comme ça.
OK. Fait que, donc, l'émotion ne vient pas altérer la sentence qui doit être prononcée.
Non, parce que c'est dans ce cas-là, là, et on le savait à l'avance, là, qu'il allait avoir une suggestion commune, que je vais finir par vous dire. Là. Bref, c'était 3 ans de pénitencier. C'est ça que le juge a accepté, parce que lui aussi, il connaît le type de jurisprudence qu'il y a. Il y a plusieurs fourchettes de peine. Là. Il y en a que ça peut aller plus que ça, là, conduite capacité affaiblie causant la mort. Mais avec un profil comme celui d'Émeric, avec un support familial, avec le fait qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire et tout ça, les avocats ont estimé que 3 ans, c'était pile dans ce qu'il fallait.
Et, mais quand même, donc, c'est quand même, c'est sérieux. Tu sais, je veux pas que le message, même si les parents ont pardonné puis appuient Émeric, même s'il a causé le décès de leur fils, il y a quand même une sentence sérieuse. Puis c'est le message tu sais, moi, il faut que j'ai 2 gars dans la maison, là, de 18-20 ans. Il faut que ce message-là, que conduire avec les facultés affaiblies quand ça cause la mort, même si tout le monde voudrait effacer ça, c'est 3 ans de prison pareil, là.
C'est sérieux. Puis là, les gens vont dire, ouais, il fera pas tout. Là, ça, c'est pas mon bout. Là, ça, c'est les services correctionnels. Il fera pas 2 mois non plus. Là, tu sais, on s'entend. Là, il va faire une très bonne partie de sa peine, évidemment. Et il va avoir aussi ce qui est normal, tout à fait, là, une interdiction de conduire. Dans son cas, ça va être 39 mois, un petit peu moins de 4 ans, là, après la peine de 3 ans de prison.
L'interdiction de conduire vient après la peine.
C'est ça, exactement, mais on a déduit la période qui entre son arrestation et maintenant. Là. Ils ont comme enlevé celle-là où est-ce qu'il est déjà en interdiction de conduire, là, pour pas que ça se dédouble là, administrativement. Donc c'est ça.
C'est une peine sérieuse. C'est juste, il y a eu un mort, là.
Oui. Puis je sais bien qu'on est tous des humains. Quand c'est un espèce de chauffeur récidiviste, 72 ans, qui est à sa 15e balloune, on n'a pas la même sensibilité. Tu sais, là, hier, c'était quand même quelque chose là de voir ce petit jeune homme-là en belle chemise propre là, qui s'en allait en prison avec toute sa famille. Parce qu'il est en liberté, évidemment, depuis son arrestation. Je dis évidemment, il n'y a pas d'antécédent. Là. C'est la grande majorité, c'est comme ça. Et il de toute sa famille qui était là pour le voir partir. T'sais, ça nous fait quelque chose qu'on n'aurait pas ressenti là, dans d'autres circonstances. Mais la jurisprudence est là, puis elle est abondante. Là. C'est décourageant à chaque fois de voir. Il y en a donc bien des cas là, de gens qui perdent la vie sur nos routes.
Là, il prenait le chemin de la prison hier? Il n'est pas reparti avec sa famille qui était là.
Non, il avait amené, j'imagine, toutes ces choses et il est parti avec les agents correctionnels qui se rendent jusqu'à Montmagny, hein?
Toi donc. C'est ça. Alors, toute qu'une histoire, c'est très... Tu sais, parallèlement à ça, hier, c'est drôle, hein, parce que je voyais Martin Pouliot dans sa tournée médiatique. Il a parlé à bien du monde. Puis, tu sais, je comprenais pas, là, puis je me disais, bon, mais tu sais, la victime tente de lui pardonner, mais il y a quand même une victime. Puis moi, je ne veux pas que la justice devienne émotive.
Je comprends.
Faut pas que ce soit ça, parce que quand on parle à des victimes, c'est toujours tout un ou tout l'autre. Comme là, les parents de la victime veulent pardonner, c'est correct. Mais s'ils voudraient pas pardonner, puis ils souhaitaient la mort de l'accusé, ils méritent pas de mourir, là, tu comprends?
Non, pas du tout. Puis les parents de Kevin le disaient aussi, là, maintenant c'est le temps de la punition, on le sait, là, tu sais, puis on souhaite bonne chance pour cette punition-là. Tu sais, ils disaient pas au tribunal, pour petit minou, envoyez-le pas en prison, là. Tu sais, on n'était pas là. Mais je l'ai trouvé tellement fort, puis je me questionnais toute la journée, genre, hey, ils ont perdu un fils, puis ils pardonnent. Tu sais, je sais même pas comment on survit à perdre un enfant. Fait que te rendre à l'étape suivante, là, tu sais, c'est quand même quelque chose.
Ben, c'est quoi mon point? Moi, je pense que c'est le moment où tu choisis d'avancer. Ça passe par le pardon ou t'avanceras pas. Tu sais, j'entendais mon collègue Bouchard hier, il parlait aussi avec la famille là, d'une madame qui est décédée pour un bon médicament, puis elle est morte à l'arrivée à l'hôpital, puis tu sais, puis là ils veulent poursuivre, puis ils connaissent le dossier, puis t'en sors, tu finis pas par tourner la page. Tu sais, plus tu t'enfarges dans vouloir que justice soit rendue, souvent personnellement, plus c'est difficile de s'en sortir. Alors peut-être que les parents de Kevin Côté ont trouvé la façon de pouvoir continuer d'avancer. Tu disais qu'il y avait Kevin, un jeune frère, qui a 16 ans maintenant.
C'est ça, exactement. Son père, Jean-François Côté, travaille comme commis d'approvisionnement à Valcartier. Okay. Il a été en arrêt de travail, mais là, il vient de revenir. Et la maman, Caroline-Julie Bastille, elle, c'est particulier aussi, elle avait un bistrot dans le Bas-Saint-Laurent. Et elle a vendu. Elle est plus capable. Elle a dit oui, le contexte de la COVID, mais aussi j'étais plus capable de voir comment j'allais interagir avec des gens qui allaient vouloir quitter le bar avec leur auto. Puis je me sentais juste pas capable d'imaginer ça, là. Donc c'était trop lié avec l'histoire de son garçon. Fait qu'elle a vendu son bar et elle va se refaire une entreprise ou une autre carrière. Good. Par la suite.
Mais j'ai plus facilité à avoir de la compassion pour Emmerich que, mettons, pour Martin Pouliot. Tu sais, Pouliot, ce qui m'a viré à l'envers hier puis qui m'a choqué, c'est qu'il affirmait avoir pris un verre de vin et demi. Premièrement, des demi, je sais pas où il a pris ça, là. Où il l'a laissé.
Tu sais, puis... Il a échappé la moitié, je sais pas.
Ben, c'est ça. Puis l'autre affaire, je disais, ben oui, mais je vais prendre la petite Pascal, là, à 100 quelques livres, puis il va te faire caler un verre de vin et demi, puis elle pètera pas .11. Fait que moi, me faire mentir en pleine face, je l'accepte pas. Fait que des fois, c'est peut-être là où je suis moins patient. Mais donc, des histoires difficiles à comparer, mais les résultats restent les mêmes. Donc, Emmerich s'en va en prison, est en prison depuis hier. Il y a quel âge, là, quand il rentre en prison?
Là, il est à 21.
21 ans, OK.
Ouais.
Bon, ben merci, Isabelle. Très touchant comme histoire. Puis, ce futur, fallait qu'on se parle. C'était fait pour ça.
Fallait. On a de la misère à se séparer. Hein. C'est pas facile.
Merci, Isa. Salut. Bonne journée.
À bientôt.
Bye-bye. Pour les gens qui nous suivent sur Twitch, je te demande pourquoi je regarde à terre. C'est que, à terre ou en bas, c'est qu'Isa, on est sur FaceTime. On aime ça se voir quand on se parle. C'est beaucoup plus facile. Mais la pandémie étant ce qu'elle est. Fait que, voilà pour ces deux histoires. En tout cas, cette histoire-là, vraiment, vraiment triste. Et quelqu'un qui assume vraiment sa peine, c'est davantage comme le fait le petit Emmerich que ce qu'a fait Martin Pouliot.
Ben, le message le plus important là-dedans, je pense que tu l'as dit. Tu as dit, moi, j'ai deux gars à maison, il faut que j'en parle.
Non, absolument.
Si j'étais maman, la première chose que je ferais aujourd'hui, mettons, autour du souper ou autre, c'est d'aborder cette histoire-là, puis de parler comment Emmerich en parle et de parler aussi comment les parents en parlent.
Malgré le pardon et la compréhension de tout le monde, il y a une sentence de 3 ans de prison. Ajouté à ça, à peu près 3 ou presque 4 ans sans conduire un véhicule automobile, ça va l'emmener quasiment là, jusqu'à une trentaine d'années. C'est assez sérieux.
Mais une famille qui l'encadre bien au moins pour la suite des choses.
C'est ça. Il y a des études. T'sais. Il ne verra pas tout croche.
Ah, s'il y en a un qu'on ne verra pas d'un palais de justice, c'est probablement lui.
C'est ça.
Ça n'enlève rien.
Non? Exactement. Mieux. Alors voilà pour l'histoire d'Emmerich. Puis à ça, je veux juste rajouter, je ne sais pas tout ce qui a été dit. Je ne l'ai pas entendu Martin Pouliot parler avec Bouchard hier. Je l'ai vu rapidement du coin de l'œil parler à la télévision. Mais tu sais, puis là, que il regrette, puis la victime semble vouloir lui pardonner maintenant, mais elle a des séquelles épouvantables à tout ça. Et elle non plus, j'ai pas entendu, honnêtement. Moi, c'est l'affaire du verre de vin et demi. Puis surtout que il y a une affaire que je savais, puis je n'ai pas parlé parce que ça me tentait pas, puis ça me tentait pas d'aller là. Mais tu sais, quand après ça, je le vois quasiment vouloir jouer aux victimes, moi, je suis pas capable. Tu sais, il était pas tout seul là au restaurant où ce qui était ce soir-là. Puis penses-tu qu'on n'a pas parlé à ce monde-là, nous autres, qu'on n'a pas croisé quelqu'un qu'il connaissait? Puis penses-tu que je le sais pas qu'il allait jouer aux cartes au corail avec les Conolines du Cosmos? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau, ce gars-là? Il s'est fait réarrêter, vous souvenez-vous de ça? Il est bris de condition, là, avec le panel du Cosmos, puis il pensait être correct. Pourquoi? Parce qu'il était pas le char, t'as pas plaqué à son nom. Puis il se promenait avec le panel du Cosmos, puis, tu sais, c'était au début de la pandémie, là, puis il livrait de la bouffe. Mais c'est quoi l'affaire, là? Non, j'ai plaqué Cosmos, là, pas de danger. Puis il a joué aux cartes toute la veillée ou une partie de la nuit. Je sais pas qu'il consommait de l'alcool, là. Ça, honnêtement, il n'y a personne qui veut le dire. Je le sais pas non plus. Je pense pas, parce que quand il a été réarrêté au volant, puis le pire...
C'est le couvre-feu dont ils ont parlé, mais
il voilà. Il avait quasiment tué quelqu'un avec l'alcool au volant.
De nuit, ouais.
Mais on lui a quand même donné un permis restrictif.
Pour le travail?
Pour le travail, il livrait pour le Cosmos,
ouais.
Le traiteur Cosmos.
OK.
Puis, écoute, son employeur était très satisfait de lui, il me l'a dit. Moi, c'est lui qui m'a appris. Mais il dit, il m'a fait saisir mon truck pendant 30 jours. C'est mon panel, il est saisi. Puis, lui, il se promenait avec ça, pensant être safe. Mm. Tu sais? Méchant affaire. Tu sais, à un moment donné, là, essaye pas de jouer au pape, là. Il est pas pape, là. Il est pas proche, là. OK? On vient dans un instant.